France Culture.
Science en son. Céline Nozen, Guillaume Baldi. Épisode 4. Archéologie, les acoustiques du passé. Des époques récentes aux plus lointaines, des scientifiques cherchent à recomposer les ambiances du passé. C'est l'objet de l'archéologie du paysage sonore, qui exhume une dimension méconnue de notre histoire. À l'origine de cette discipline, la musicologue Mylène Pardoen de la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Lyon 2.
Alors, un paysage sonore, c'est quelque chose de très complexe, puisqu'il est, en gros, hein, si on avait à le dire physiquement, on a trois grosses couches. On a une première couche qu'on appelle géophonie, et ce sont les bruits et les sons du lieu où on est. C'est si on fait un silence, voilà, le micro, il a capté la géophonie. Juste au-dessus, bon, on va avoir tout ce qui est biophonie. Donc c'est tous les bruits des êtres vivants, et certains mettent les humains dans cette catégorie-là, mais je n'ai pas forcément de préférence. Puis ensuite, on a l'anthropophonie, ce sont tous les bruits et les sons qui sont issus de l'humain et de ses activités. Ça va des sémiologies jusqu'aux machines, aux cris, aux échanges de conversation. Donc voilà ces trois couches qui vont se mélanger, enfin une belle petite sauce. Et puis bah, ça, c'est un paysage sonore. L'énergie, la synergie d'un paysage sonore, il est toujours en mouvement. C'est jamais la même chose. Donc quand je restitue 3 minutes d'une ambiance sonore, quelle que soit l'époque, c'est 3 minutes avec des milliards de combinaisons possibles. Donc on essaye de restituer ce paysage sonore en étant le plus proche possible d'une possible réalité. C'est-à-dire que dès le départ, on va rechercher l'information dans toutes les sources dites hétérogènes, c'est des sources textuelles, des sources iconographiques, donc visuelles, et puis bah, d'autres sources, parfois qui sont multiples, et on va essayer d'agréger de l'information. De ces informations que j'appelle indices sonores, un chien, mais ça peut être un tissu qu'on peut entendre parce qu'il va battre au vent. De tous ces indices sonores, bah, je fais un grand saut dans le présent, puisque j'ai mené une enquête dans le passé, et je dois retrouver ces sons dans le présent. C'est-à-dire que quand vous écoutez mon travail, il n'y a pas de sound design, il n'y a pas de bruitage. Ce sont des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Et c'est pareil pour la partie géophonie. Il faut retrouver des lieux qui ont les mêmes particularités. Donc il y a toujours ce biais de contemporain qui reste présent, mais on est plus proche que du bruitage de cinéma.
En fait, ce que vous expliquez là, votre méthode de travail, ça souligne un champ disciplinaire que vous avez amorcé vraiment en France, peut-être dans le monde, qui est l'archéologie du paysage sonore.
C'est ça. En 1997, hein, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. En 2003, ça commençait un peu à germer. Et en 2013, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce que... Quand j'ai travaillé pour un musée, je devais sonoriser des champs de bataille.
On peut le dire, c'était le musée des Invalides.
Oui.
On peut même préciser votre expertise préalable. C'est-à-dire que vous êtes docteur en musicologie. Oui. Vous étiez spécialiste, vous êtes toujours spécialiste des musiques militaires.
Oui, je suis spécialiste des musiques militaires. Donc, c'est pas seulement la sonnerie, la batterie d'ordonnance. C'est un champ de musique qui est très, très large et très riche. Même aujourd'hui, il s'est un peu appauvri, mais quoi qu'il en soit, il est très large. Et j'ai eu l'opportunité de travailler à la sonorisation de ces plans de bataille. J'ai trouvé ça, pour moi, c'était un petit jeu. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais je me suis posé une question. Pourquoi les musées ne mettaient-ils pas de son dans leur lieu? Et je suis tombée à un moment où la technologie permettait tout, à la fois de chercher dans les sources, à la fois d'enregistrer et puis de restituer. Donc voilà, je vais dire, c'est presque un hasard, tout s'est bien aligné. Je me trouvais là, j'ai eu cette idée et j'ai participé à l'élaboration de cette discipline. Oui, elle se diffuse un peu partout, Mais elle se diffuse partout, pas seulement sous la forme de paysages sonores. Elle se diffuse aussi sous la forme de sensorialité beaucoup plus large. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis archéologue du patrimoine sonore. C'est-à-dire que pour récupérer tous ces bruits et ces sons du passé, sans passer par le sound design ou par le bruitage, ben, je suis obligée de les chercher sur le terrain. Donc il a fallu réfléchir à la sensorialité des lieux, des gestes et des gens.
Par exemple, dans le Paris du XVIIIe siècle, c'est comprendre le travail des artisans, par exemple, ou bien les tissants, ou bien au-delà de l'ambiance sonore.
Alors ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on va enregistrer un artisan, il y a plusieurs phases diachroniques dans sa maîtrise de son art. Et c'est pareil dans le temps. C'est-à-dire que si on va tailler une pierre pour le 12e ou le 13e siècle, on ne va pas utiliser les mêmes outils qu'aujourd'hui. Bon, pour plein de raisons. Aujourd'hui, il faut débiter. Dans le temps, il fallait aussi qu'il y ait une rentabilité, mais c'était pas, les outils étaient manuels. Et ils évoluent au fil du temps. C'est-à-dire, on va prendre par exemple la forge. La forge du médiéval, elle ne sonne pas comme la forge du 19e et elle ne sonne pas comme la forge du début du 20e siècle. Tout simplement parce que l'évolution des technologies apporte une autre sonorité au niveau des matériaux. Et ce qui fait le bruit, c'est la matière plus l'outil. Il n'y a pas que le geste. C'est si je prends, je sais pas moi, une hache contemporaine, je vais avoir un bruit. Si je prends une hache du 12e ou du 13e siècle, elle aura un autre bruit. Et ce que je cherche, c'est de resituer le son par rapport à l'époque que l'on va étudier. Alors, là, on va descendre d'un étage et on va filer tout doucement vers la salle immersive avec d'autres types d'ambiances.
On emprunte une galerie souterraine vers une ancienne chambre de torture de la Gestapo, restaurée aujourd'hui en salle d'expérimentation sonore. Salle d'expérimentation et de diffusion immersive. Oh, il y a une odeur.
D'accord. Donc ici, vous vous retrouvez dans la salle immersive. Donc c'est une salle qui est un peu mate. Vous avez 46 enceintes tout autour, 22 en frontal. Vous en avez 10 en élévation. Et puis, vous avez des sons d'un peu partout, hein, derrière, devant.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait exactement dans cet espace de travail ?
Dans l'espace de travail, ici, on va travailler en immersion totale. Donc, j'ai deux logiciels, Reaper et puis Spat Revolution. Et c'est dans Spat Revolution que je vais pouvoir développer mes scènes immersives. En fait, mon histoire, elle se raconte directement avec les sons. Ça se fait à l'étage où on était tout à l'heure. Et puis, ici, on spatialise. Donc là, moi je vous invite, on va croiser les doigts, mais je vous invite à vous asseoir.
Sur les chaises disposées
sur les tabourets qui sont au centre de la salle. Et puis, d'écouter la scène. Donc, je vais vous passer Paris, la cathédrale de Paris, la construction en 1170. Voilà le plan. Donc le plan, il est simple. Hein. À l'époque, en 1170, c'est uniquement le chevet de Notre-Dame. Et la scène que l'on va entendre, c'est la scène que nous, on a dit, la scène de la Seine. C'est-à-dire, c'est celle qui est derrière le chevet. Les quais sont en marron et donc la berge est ici. Donc, ça perçoit déjà que la Seine est beaucoup plus proche de la cathédrale en 1170 qu'aujourd'hui. Et puis, on a tous les métiers qui seront autour de nous. Donc, avec les métiers du bois plutôt de ce côté-là et les métiers de la pierre de l'autre côté. Les bruits typiques, pour donner un peu quelques repères, vous allez avoir outre les tailleurs de pierre ou les charpentiers, c'est du basique et ça on peut les reconnaître. Vous avez donc la forge médiévale qui sonne mat, Cherchez plutôt un bruit de pierre, mais vers le centre du spectre. Vous avez la cage à écureuil qui fait comme une porte qui couine. Parce que c'est une roue dans laquelle on va marcher pour qui sert de grue pour l'époque. Hein. Donc ça sert vraiment d'élévation des matériaux. Vous avez le cordier, ça ressemble plutôt à des clés. Parce qu'il y a le cliquetis des petits rouages pour tordre les cordes. Donc voilà, vous avez ici un panel de tous les métiers qu'on peut trouver sur le chantier. Écoutez, justement, la même localisation, c'est-à-dire derrière le chevet, mais en 1850. Donc ça dure, pareil, 3 minutes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va travailler sur des fresques sonores, il faut absolument retrouver tous les éléments de rupture qui peuvent exister. On est quand même sur du temps long, il n'y a que très peu de temps, hein. C'est que depuis le début du 20e siècle, où le rythme technologique fait qu'il n'y a pas de temps long, il n'y a plus de temps long maintenant. Mais à cette époque-là, oui, par exemple, la cage à écureuil que là on vient d'entendre, qui existait au 2e siècle avant Jésus-Christ, donc ça nous fait quand même un bon temps avec cette cage à écureuil, elle est utilisée jusque dans les années 1850-1870, le temps que le progrès se mette en place. Donc on est sur du temps long, donc ce qu'il faut chercher, c'est les éléments de rupture qui peuvent nous faire comprendre qu'on a changé d'époque. Et quand on est en 1850, et c'est l'apparition de la batellerie, puisque les bateaux à vapeur commencent à faire leur apparition sur la Seine. Et c'est ça l'élément de rupture, il n'y a pas encore de voiture, mais les bateaux, eux, commencent à être mécanisés, quoi. Donc on est plutôt sur une modification de l'urbain, mais pas forcément technologiquement parlant, il n'y a pas vraiment des très très grosses ruptures. Et c'est ça qui est intéressant. On est plutôt sur de la restauration, donc il y a moins de bruit de construction par elle-même. Il n'y a presque pas de bois, il n'y a pas de taille de pierre stricto sensu, on est sur de la ciselure. Par contre, on entend les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste à côté de Notre-Dame, il y a l'hôpital des orphelins, hein, des enfants hébergés, et il est attesté que ces enfants ils étaient souvent dehors. Donc on est plus sur vraiment des changements urbains, que sur des changements de technologie. Au tout début de ma quête dans les sons, puisque la première quête que l'on fait, c'est quand même dans le papier et sur l'iconographie, je suis obligée de faire l'impasse sur ce que je suis moi aujourd'hui pour comprendre comment le passé m'a transmis, nous transmet ces informations-là. Parce qu'elles sont présentes dans... Ils n'ont pas d'enregistreur numérique, eux. Ils n'ont pas d'appareil photo. Donc ils nous transmettent des témoignages du passé qui sont sensoriels. Et il ne faut absolument pas tomber dans le travers de se dire « Oui, mais par rapport à... » Non, il ne faut pas se dire par rapport à aujourd'hui, parce que ça... il n'y a pas de rapport à aujourd'hui, il y a eu une évolution. Donc il faut prendre l'information comme elle nous vient, d'essayer de la neutraliser le plus possible, parce que votre écoute, ce n'est pas mon écoute. Et l'oreille, elle va passer son temps, mais comme dans la vie de tous les jours, en fait, quand on se promène dans la rue, l'oreille, si on n'a pas un casque sur les oreilles, c'est le cas de le dire, l'oreille, elle passe son temps à filtrer. Ça, je le veux, ça, bon, ça n'a pas d'importance. Ah, ça, ça m'interpelle, je vais l'écouter. Ça peut être une chanson, ça peut être un dialogue entre deux personnes, ça peut être plein de choses.
Mylène Pardoen nous propose de remonter à son bureau pour expliquer sa méthode pour créer ses paysages sonores. En se plongeant dans ses bases documentaires, archives, iconographies ou cartographies, elle traque le moindre indice sonore historique.
Derrière vous, là, vous avez le plan, le premier plan sur lequel j'ai travaillé, c'est Paris au XVIIIe siècle, c'est le quartier du Grand Châtelet, donc le plan en bretèse. Entièrement restitué et constitué de morceaux de plans que j'ai retrouvés au fil du temps pour avoir jusqu'à l'intérieur des maisons. Pourquoi ? Parce que quand on va travailler sur un paysage sonore, ce qui est intéressant, c'est de retrouver l'endroit, la localisation très exacte des artisans. Et quand on s'appuie sur les documents administratifs, eh bien, on va avoir justement ces artisans qui sont présents.
Comme des procès-verbaux, des cadastres.
Voilà, il y a. Alors là, on a par exemple. Voilà, si on s'approche, on va voir qu'on a les intérieurs des maisons. Parce
que tout est bien numéroté.
Le pont a été entièrement vidé de ces maisons et les maisons, elles ont été abattues. Aujourd'hui, le pont au change, il est sans maison. À l'époque, c'était aussi pour ça que j'avais choisi ces quartiers-là, c'est que c'était un lieu où il y avait des maisons sur les ponts, donc une acoustique particulière. En fait, on est autour du Grand Châtelet. Donc, Grand Châtelet, aujourd'hui, à Paris, c'est les deux théâtres du Châtelet. À l'époque, c'était une prison et un commissariat. On voit bien, c'est marqué prison. De l'autre côté, c'est commissariat. Ce qui était intéressant, pourquoi j'ai choisi cette zone-là, parce que juste en haut, là, vous avez la porte de Paris, il y avait un marché. Juste à côté, vous aviez la grande boucherie, donc des activités d'abattage d'animaux. Juste en dessous, on avait un porche, donc avec des acoustiques comme dans notre couloir, pratiquement. Ensuite, un endroit un tout petit peu plus silencieux, hein, mais il s'avère que, au fil du temps, on s'aperçoit que la prison, elle est très bruyante, parce que les gens, ils creusent, comme une prison aujourd'hui aussi. Hein. On a le Trovaquidur qui est dans le prolongement de la rue de Gèvres, c'est une rue très passante, mais aussi très passante, puisqu'il y a des accidents, voire des accidents mortels. Et puis surtout, on a le pont au change avec ici la pointe du pont au change où on a pu repositionner des métiers beaucoup plus bruyants que ce qu'on pensait. Notamment ici, on a deux bonnetiers avec des métiers à tisser. Donc tout ça, ce sont des acoustiques et des localisations d'artisans qui m'ont permis de recréer cette ambiance sonore.
Au début de la pièce, on commence dans le chantier de Notre-Dame avec un soundscape, un paysage sonore créé par Mylène, qui était des cloches fabriquées par la même fabricante dans la même usine de la même époque que des cloches d'origine de Notre-Dame. Je m'appelle Brian Katz, je suis acousticien avec le CNRS, directeur de recherche. Je suis hébergé à l'Institut d'Alembert, qui fait partie de la Sorbonne Université. Et c'est un laboratoire en mécanique de fluide, plutôt. Et il y a une équipe spécialisée, s'appelle le LAM, qui est un luthier acoustique et musique. Et dans cette équipe, je pilote la recherche autour de son 3D et acoustique des salles et réalité virtuelle. Donc l'idée en acoustique, c'est l'acoustique d'un lieu, c'est le produit de toutes les décisions physiques de l'architecture, de décoration. Et donc si on fait une reconstruction historique, l'idée c'est de faire un modèle 3D du volume avec les matériaux et toutes les décorations. Et plutôt que d'assigner des couleurs aux surfaces, on assigne des propriétés acoustiques. Absorption, scattering, diffraction. Et avec des outils de simulation, on peut prédire un peu comment l'acoustique fonctionne à l'intérieur d'une salle. Et ça peut être une salle aujourd'hui qui existe, une salle future comme pour les bureaux d'études, où nous, maintenant, c'est plutôt dans les salles passées qui n'existent plus ou qui n'existent plus dans l'état de l'époque, pour réimaginer un peu l'acoustique de l'époque. Par chance, on avait fait des mesures à Notre-Dame en 2013, dans le cadre d'un un projet de recherche autour du son binaural pour la radio, la télé, etc. Et on avait fait une simulation de Notre-Dame de l'époque. On a reconstruit un des concerts pour l'anniversaire, le 850e anniversaire de Notre-Dame. Et on avait l'idée de créer une version virtuelle de ce concert pour le public qui ne peut pas être présent. Et donc on avait fait une petite vidéo de 5 minutes sur YouTube où on peut balader sur un tapis magique à Notre-Dame et écouter un peu comment l'acoustique varie à Notre-Dame. Et c'est après l'incendie, on avait constaté qu'on est le seul labo dans le monde qui a fait des mesures à Notre-Dame. Et donc, ça nous met dans une certaine position d'avantage pour l'équipe de restauration. Mais c'est après que le président Macron a annoncé que ça doit être reconstruit comme avant l'incendie, que nous, on avait dit... Et on avait réfléchi que oui, mais il y a le jour avant l'incendie, mais il y a 100 ans avant ça, et 100 ans avant ça, et des siècles et des siècles. Et le bâtiment a beaucoup changé, en termes de décoration, mais aussi en termes d'architecture. Et l'idée, c'est de voir un peu, oui, mais quelle époque de Notre-Dame, et quel est l'intérêt de chaque époque. Et pour nous, un peu, quel est le lien, par exemple, avec... la musique de chaque époque, est-ce qu'il y a une architecture qui est mieux adaptée à différents styles de musique qui sortent de Notre-Dame? Et c'était un peu ça l'origine de ce gros projet FEND, de Past As Years à Notre-Dame, qui est vraiment d'étudier l'histoire de l'acoustique de Notre-Dame en plusieurs façons, en termes d'architecture, en termes de musique, en termes de prière. Il y a le joubé, quel est l'impact de l'acoustique du joubé, quel est l'impact des mets, les grands tableaux qui étaient installés pendant 100 ans, qui maintenant ne sont plus là. Donc on essaie d'étudier un peu toutes les facettes, mais avec une certaine vue sur l'acoustique. Donc notre approche, c'était, on commence avec les mesures en 2013, on crée un modèle de Notre-Dame, géométrique basé sur des nuages de points acquis par Andrew Talon et c'est lui qui avait les seules mesures et c'est même ces scans numériques, numérisation numérique qui était utilisée par l'équipe de restauration parce que c'est le seul trace avant l'incendie du bâtiment. Et donc avec ce modèle et une étude visuelle des matériaux, on essaie de créer un modèle qui produit la même caractéristique des mesures. Donc, on peut calibrer le modèle pour que ça donne la même valeur. Et en termes de clarté de la musique, intelligibilité de la voix, en termes de la réverbération, à tous les endroits mesurés. Et si on arrive à ça avec le modèle, qui maintenant on peut caractériser comme un jumeau numérique de Notre-Dame, en 2013, avec des recherches dans les archives, on peut maintenant modifier ce modèle pour aligner avec des choses passées ou futures s'il y a un intérêt d'aider l'équipe de restauration sur certaines modifications. Donc avec ce jumeau numérique, la chose qu'on simule, c'est un peu la propagation du son d'un point donné, un source, un émetteur, soit un haut-parleur ou soit un instrument de musique ou soit quelqu'un qui chante, à une pointe d'écoute, donc un récepteur, un micro ou une personne avec une tête et deux oreilles. Donc l'idée, c'est si on fait beaucoup de ces calculs à différents endroits, après on peut injecter n'importe quel source, signal, à n'importe quelle position et écouter à n'importe quelle position. Donc nous, on travaille sur ce parti de modélisation de la propagation et Mylène nous fournit des types de sons à différents endroits. Donc ça peut être le claque d'une porte ou le bruit de quelqu'un qu'on peut enregistrer aussi dans des salles anéchoïques, donc une salle sans écho du tout. Donc nous, on avait enregistré des musiciens, des chanteurs, mais même des bruiteuses qui a recréé plein de petits sons qu'on avait réinjectés dans ces modèles.
Nous sommes au XIIe siècle, au temps de la construction de la cathédrale. Les musiciens et le style musical qu'on y pratique sont aujourd'hui dénommés « École de Notre-Dame ». Léonin est un maître de musique et l'auteur de nombreux « organa », forme musicale dans laquelle deux voix se superposent et entrent en résonance. C'est l'art de la polyphonie occidentale, dont Léonin est l'un des pionniers. On lui attribue le « Magnus Liber Organi », grand livre de l'organum, recueil de musique médiévale écrit au cours des XIIe et XIIIe siècles. Écoutons ensemble la pièce liturgique « Judea et Jérusalem » qui était chantée lors des premières vêpres de Noël et appréciez comment le chœur répond au soliste.
Extrait de l'Arc au concert, à l'écoute du passé de Notre-Dame. L'archéologie sonore s'empare d'un autre édifice hautement symbolique, le Palais des Papes en Avignon. Dans la grande chapelle pontificale, le musicologue Julien Ferrando cherche à y recréer les conditions acoustiques des polyphonies de l'Ars Nova du XIVe siècle.
Qu'est-ce que l'archéoacoustique ? Vaste question, c'est une discipline qui pour nous musicologues est assez récente, mais qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. C'est, si je devais le résumer, une science qui touche en fait la connaissance, la reconstitution d'espaces sonores, de lieux qui n'existent plus ou qui sont anciens et dont on essaye de comprendre. Donc c'est avant tout déjà comprendre l'espace sonore ancien. Puis, il y a une dimension plus technologique qui, depuis une vingtaine d'années, grâce au progrès des techniques du son, on a eu la possibilité de faire des réponses impulsionnelles, donc de créer des modèles acoustiques de lieux qui ont permis à la fois de reporter ces lieux dans l'ordinateur, donc pour la prise de son, mais également de pouvoir permettre à des chercheurs de réinventer des lieux qui n'existent plus et de leur donner vie. Et donc de faire des expériences scientifiques. C'est ça l'intérêt aussi de l'archéoacoustique. dans mon laboratoire précédent, en parlant avec des collègues qui étaient acousticiens, je me suis rendu compte qu'il existait des principes de pouvoir refaire une acoustique virtuelle. Et je suis parti dans un délire, si on peut dire, au début, parce que j'aime bien ça, c'est-à-dire, tiens, et si on essayait, pourquoi pas ? Au début, on me disait non, c'est pas possible. Et puis, en rencontrant un collègue acousticien à Paris, à Sorbonne Université, Brian Katz, dans un colloque par hasard, et il me dit mais oui, c'est possible, on le fait sur Notre-Dame. Et alors là, les portes se sont ouvertes, et je me suis dit bon, essayons. Et j'ai commencé par un tout petit pré-projet. On a fait des petites réponses impulsionnelles il y a déjà bien des années, en 2016. Un samedi, on a fait des petites réponses, on a essayé de reconstruire avec un collègue qui était à l'IRCAM des petites acoustiques qui ont fait un peu preuve de concept. Et à partir de là, j'ai rencontré Mylène Pardoen. On a commencé à collaborer et les portes se sont ouvertes petit à petit pour mettre en place le projet IMAPI, qui a été mon premier projet, qui est un acronyme terrible. On adore ça au CNRS, donner des acronymes, c'est pour avoir des sous, hein, généralement.
Projet immersif.
Projet immersif, qui signifie interprétation musicale en acoustique patrimoniale immersive. En gros, jouer de la musique dans une acoustique reconstituée, historique. Voilà. Voilà. Là, on est véritablement dans le Saint-des-Saints, dans cette chapelle pontificale, dont juste à côté de l'autel, et on regarde donc vers le fond de cette chapelle. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a plus rien, il n'y a que des murs, en pierre, aucun mobilier.
C'est assez nu, et pourtant on est encore saisi par un sentiment de majesté. C'est le ça. Volume déjà, je crois qu'il y a plus de 14 000... mètres cubes, donc ça donne de l'espace absolument. Pour expérimenter.
Je vais reprendre les mesures dans la tête, je ne les ai plus dans la tête, mais effectivement on a...
52 mètres de long, 15 mètres de large et 20 mètres de haut.
Et c'est là où on officiait donc les messes solennelles, et dans ces messes solennelles, il y avait, à certains jours de fête, de la polyphonie. Alors comme on le voit, on est dans un volume qui a que très peu changé, je dis bien le volume, parce qu'après tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'habillage et qu'absolument inexistant, on est dans des murs à nu, mais on se rencontre, et d'ailleurs, je pense que tout le monde, quand on est rentré, l'équipe, vous êtes rendu compte de cette chaleur, de cette acoustique, qui est quand même très intéressante. Donc on a fait les mesures dans toute la chapelle, tous les éléments, mètre par mètre, ont été faits, et des mesures ont été faites avec un matériel extrêmement de pointe, extrêmement complexe, pour avoir toute cette modélisation 3D possible, et l'idée était d'avoir une modélisation 3D 360.
Alors peut-être qu'on peut écouter justement une de ses œuvres chantée par Diabolus in Musica.
Absolument. On va peut-être vous faire écouter l'extrait de Petre Clemens, qui est ce motet dédié à Clément VI. Et on pourrait commencer tout d'abord à vous le faire écouter dans l'acoustique moderne, celle où on est actuellement, qui veut dire qui résonne. Et après, en deuxième écoute, assez rapidement, vous allez vous rendre compte, on va écouter la même chose, le même extrait, dans l'acoustique médiévale, et je pense que les auditeurs vont entendre la différence. Donc ça, c'est le premier extrait qu'on écoute avec cette acoustique moderne, et on va de suite écouter l'acoustique médiévale, même extrait. Et là, on sent déjà la différence. Donc, dans le positionnement identique, ce qu'il faut savoir, c'est que les positionnements aussi ont été calculés. C'est une écoute qui n'est absolument pas historique, puisque c'est l'écoute dite du chef de chœur. Il n'y a pas de chef à l'époque. Tout le monde chante ensemble. Il n'y a pas personne devant. Et pour rendre intelligible et compréhensible les positionnements, j'ai voulu qu'on se mette devant les chanteurs. Et là, vous remarquez qu'en fait, quand vous écoutez les chanteurs, vous êtes près des chanteurs, mais ça résonne beaucoup moins que dans le premier extrait précédent. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'entre les chanteurs, il y a une définition qui est beaucoup plus claire, et donc une intelligibilité. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est peut-être d'écouter en dernier extrait une écoute de la position du pape médiéval. C'est-à-dire que si on compare le médiéval, où on est devant les chanteurs, et les positions médiévales de ce que pouvait entendre le pape, ben on se rend compte que, vous voyez d'ailleurs la différence, on est à la troisième travée, et la deuxième travée, elle est là, ça fait une belle distance, avec une belle résonance, et bien d'ici, on voit qu'on est quand même dans une définition très claire et très précise. Écoutons juste peut-être un extrait.
Sur un autre chant, Julien Ferrando nous montre la différence depuis la position occupée par le pape. On sent bien ici la perte de clarté sonore. Le pape ne semblait donc pas occuper une position d'écoute privilégiée dans cet espace. Et finalement, toute cette recherche scientifique, technique, technologique va servir à la muséographie pour offrir un parcours de médiation enrichi pour les visiteurs.
Le son est au centre de cette visite et au moyen de head tracking, c'est-à-dire simplement la situation dans l'espace et de votre tête, on va découvrir d'une manière extrêmement sensorielle et en trois dimensions l'histoire du palais, l'histoire musicale du palais autour de sept stations. Alors je ne vais pas spoiler le projet parce qu'on est en cours d'écriture, mais les sept stations sont des lieux importants dans l'histoire musicale et à partir de là, une narration est montée et des extraits sonores à chaque fois vont être donnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement une visite guidée. C'est véritablement une expérience sensorielle où on dialogue en à la fois avec un narrateur, un chantre, et de l'autre, vous allez avoir des scientifiques qui, au fur et à mesure de l'expérience, vous donnent des indications. Vous écoutez cela parce que la science dit ça, on a telle hypothèse, etc. Et c'est ça qui est nouveau, c'est ne pas faire simplement une visite guidée classique. Ça existe déjà. Nous, on voulait que la recherche soit toujours présente dans cet aspect muséal.
Encore plus loin dans le passé, dans l'antiquité égyptienne, des archéoacousticiens étudient les ambiances sonores de Dendara, un temple ptolémaïque non loin de Louxor. À l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique et Musique, Sybille Émérite et ses collègues étudient l'acoustique évanouie du monument.
C'est un temple qui a été construit sous Ptolémée XII, donc entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, donc qui date de l'époque ptolémaïque et romaine, mais qui, dans sa construction, sa conception, en fait, est un reflet de l'idéal du temple égyptien ancien. Et comme je m'intéresse aux musiciens dans l'Égypte ancienne et leur place à l'intérieur d'un monument, j'avais repéré dans ce qu'on appelle le pronaos, qui est une immense salle qui est placée devant le temple principal, hein, qui est vraiment au contact direct, j'avais repéré une procession de musiciens à la base des colonnes. Et pendant ces missions, j'ai essayé de copier hein, ces musiciens à quatre pattes par terre. Et donc, j'assistais à des passages répétés des touristes dans cet espace. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait une acoustique particulière dans ce lieu. Et voilà, la question, c'était comment en témoigner ? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à l'utilisation moderne de ce monument ? Ou est-ce que c'est lié à une utilisation antique, volontaire ? Est-ce que c'est lié à la présence de ces musiciens ou pas ? Et c'est comme ça que j'ai été amenée à me tourner vers un spécialiste de l'acoustique des salles, qui est Olivier Varussel.
Oui, c'est un temple avec un certain nombre de volumes imbriqués, depuis le sanctuaire qui est vraiment la pièce centrale, mais qui est certainement très, très secrète, inaccessible. Puis petit à petit, on passe par différents vestibules, un espace avec un péristyle, un espace intermédiaire qui est la salle de l'apparition, voilà. Et ensuite le pronaos, qui a cette particularité d'être semi-ouvert, c'est-à-dire finalement en haut du mur extérieur se trouvent de larges ouvertures qui permettent finalement d'entendre l'activité sonore intérieure depuis l'extérieur. Donc c'est ce rapport particulier intérieur-extérieur. C'est un lieu qui est à la fois très réverbérant, c'est un volume immense, avec une colonnade de 24 colonnes, je pense. Mais, donc encore une fois, avec cette particularité d'être ouvert et donc de permettre cette porosité acoustique entre l'extérieur et l'intérieur. C'était aussi ça que nous voulions retranscrire d'abord par des mesures. Donc on a fait une série de mesures de ce qu'on appelle les réponses ambitionnelles qui permettent de capter l'empreinte acoustique d'un lieu. Alors nous on a l'habitude de faire ça plutôt dans des salles de concert, mais de plus en plus on va s'intéresser à différents types de bâtiments. Ça peut être des halls de garde, des salles de pas perdus, ou évidemment des églises par exemple, et puis donc là en l'occurrence un temple. Donc on va capter cette empreinte acoustique de manière à pouvoir refaire revivre en tout cas l'expérience sonore du lieu en laboratoire, ou éventuellement au casque ou sur enceinte. Donc pour l'instant, en fait, ce qu'on pourra écouter, c'est uniquement les empreintes acoustiques qui ont été mesurées sur place, qui permettent normalement de calibrer le modèle, puisqu'en fait le modèle actuellement ne retranscrit que la partie visuelle. Voilà. Donc il faut pouvoir rentrer les coefficients d'absorption des matériaux et caler les informations acoustiques, les paramètres acoustiques nécessaires en fonction des mesures que nous y avons faites, en tout cas dans l'état actuel, c'est-à-dire sans les portes qui séparent ces différents sous-espaces. Et une fois que la calibration est faite, après on peut rajouter entre guillemets le mobilier disparu, ou en tout cas par exemple ces portes, sachant malgré tout que les grandes ouvertures, elles, sur le pronaos, elles resteront ouvertes, puisque c'était certainement une volonté architecturale ou religieuse. Ouais. Le problème va se poser des sons qu'on veut faire écouter virtuellement dans ce lieu. Comment peupler de manière sonore ce lieu alors qu'on n'en a pris que les empreintes acoustiques. Alors les empreintes acoustiques, ça ressemble à des impulsions comme celle-ci, où on va entendre la réverbération. Pour un acousticien, ça peut évoquer effectivement un certain nombre de paramètres, mais l'idée c'est quand même de pouvoir le faire vivre de manière plus sensible.
La grande difficulté pour l'étude de l'Égypte ancienne, c'est que on a des textes qui nous parlent des répertoires musicaux, on a une iconographie qui nous montre des musiciens en train de jouer, et on a des vestiges archéologiques d'instruments de musique. Donc la grande difficulté dans ce projet, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à entendre, sachant que les instruments de musique ils sont en fragments, qu'on n'a pas de partition musicale, qu'on est dans un contexte religieux. En fait, c'est absolument impossible. Il ne s'agit pas de proposer une reconstitution de ce qu'aurait pu être une fête en Égypte dans l'Antiquité ou d'un rituel religieux précis. Bon. Et puis, j'ai fait écouter à Olivier un enregistrement que j'avais fait lors d'un voyage en Éthiopie, donc rien à voir, mais disons que l'intérêt de ce voyage en Éthiopie, c'est que j'ai pu assister à des liturgies dans une église à la Libella le matin. Il y avait seulement 3 prêtres accompagné de musiciens, et ces musiciens jouaient du sistre. Donc c'est un sistre qui ressemble un petit peu au sistre d'antiquité égyptienne, c'est-à-dire c'est une sorte de hochet avec des lamelles en métal qui viennent cogner contre les parois, donc c'est quelque chose qui donne un son assez particulier. Et puis aussi, autre particularité, dans ces liturgies, ils utilisent des grands tambours à 2 pots. Et il se trouve que dans mes représentations de musiciens d'Endera, on a aussi des grands tambours à 2 pots. Le parallèle s'arrête là, évidemment. Et puis, il y avait aussi la monodie des prêtres qui, je trouve, s'accompagnait bien à cette ambiance. Donc, il s'agit vraiment d'une ambiance qui nous permet d'apprécier l'acoustique du lieu.
Et finalement, par sa composition acousmatique, où il y a donc des voix chantées, des percussions. Et donc, on a une variété, disons, de sons d'origine qui vont permettre de faire rentrer en résonance le lieu avec les mesures que nous y avons effectuées. Ouais. Voilà le son d'origine. son est mis en boucle. Et là, je vais le mettre... Donc là, nous sommes dans le pronaos, à quelque chose comme 4 ou 5 mètres de la source. Alors la source, c'est un haut-parleur, hein, ce ne sont pas les chanteurs, c'est les haut-parleurs qui virtuellement diffusent les sons enregistrés par Sibylle. Et puis là, on va pouvoir se reculer dans le pronaos.
Ce modèle, on peut y acheter des textures, du mobilier, de la décoration pour être un peu plus réaliste par rapport aux processions qu'on évoque.
Alors bon, la première partie, ce serait effectivement de rajouter les portes qui n'étaient sans doute pas, ne permettaient pas une occlusion acoustique complète, mais évidemment participent fortement à l'acoustique. Un peu moins sur la réverbération intérieure du pronaos. C'est vraisemblablement assez peu significatif, mais c'est surtout finalement sur la transparence acoustique entre un lieu et le suivant.
Et c'est vrai que là, le son qu'on a entendu, bon, finalement, il y a très peu de musiciens. Et il faut imaginer, parce que la procession que j'ai étudiée, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a aussi des harpistes, des luthistes. Donc il faut imaginer que le volume sonore était vraiment certainement important. Et... c'est notre objectif, c'est au moins d'arriver à finaliser cette présentation au public pour qu'on comprenne mieux les cultes égyptiens et mieux cette manière en fait de rentrer en relation entre le monde des dieux et le monde des hommes.
Sibylle Emérite s'intéresse aussi à des harpes retrouvées lors de fouilles réalisées au début des années 2000 dans la nécropole de Drabou El Naga près de Louxor.
Une mission allemande a découvert effectivement entre 2002 et 2005 trois harpes dans trois puits funéraires de la nécropole thébaine qui est située sur la rive ouest de Louxor. Donc on est à une période entre 1550 avant Jésus-Christ, 1350 avant Jésus-Christ pour l'existence de ces puits funéraires. Et ces harpes étaient... en plusieurs fragments, donc il faut aussi avoir idée hein, qu'on ne trouve pas quelque chose d'entier. Il y en a deux qui sont quand même relativement bien conservés, qui sont de forme arquée, qui est une harpe qui était jouée à l'épaule, et l'autre qui est une harpe qui devait être jouée en position assise. Alors la grande question qu'on se pose quand on trouve des instruments dans une tombe, c'est est-ce qu'il s'agit d'instruments de musique réels ou est-ce qu'il s'agit de simulacres, hein, puisqu'on rentre dans une autre dimension qui est celle des rites funéraires et des croyances religieuses de l'Égypte ancienne, et que le son, la musique, peut participer à différentes étapes de la renaissance du défunt à qui on veut restituer justement ses oreilles pour qu'il puisse entendre à nouveau.
René Cossé, acousticien émérite à l'IRCAM.
L'interrogation principale, c'était est-ce que c'était vraiment des instruments de musique ? Et donc, pour cela, il n'était pas possible de faire des mesures directement sur cette harpe. Il a été envisagé de faire une copie de cette harpe à partir des relevés très très précis qui avaient été effectués. Et donc, une luthière... qui vit à Berlin, Susanna Schulz, a réalisé cette harpe.
Oui, alors, pour revenir à ces trois harpes, donc il y en a une qui était trop fragmentaire pour pouvoir proposer une copie, l'autre qui, justement, s'avère certainement être un simulacre, hein, donc c'est un instrument qui n'est pas réel, qui était déposé dans la tombe, et qui est un très bel objet, mais miniature, qui mesure à peu près 40 cm. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question si ça pouvait être utilisé ou pas comme instrument, mais l'étude des traces montre que les cordes ont été mises une seule fois, et que ça n'a pas été réutilisé. Ce qui n'est pas le cas du troisième objet, qui est donc cette harpe d'épaule, qui mesure 1 mètre, et qui est relativement étroite, puisque c'est 8 cm d'épaisseur maximum. Hein. Donc il faut imaginer un manche, à peu près de 50 cm, une caisse de résonance, pareillement de 50 cm, fabriquée dans une seule pièce de bois. Et on a même trouvé des éléments de sa table d'harmonie, qui est en cuir, qui était... à côté. Alors l'ensemble a été trouvé en fragments, donc premier exercice, c'était de rassembler les fragments, on a même les chevilles, et de lui redonner sa forme. Déjà là, c'est la première interrogation, puisque la caisse de résonance a été écrasée, en fait, et elle a une forme cintrée au centre, et c'est difficile de savoir à quel point ce cintrage vient de l'effondrement qui a eu dessus, ou si ça a été fait volontairement quand on a fabriqué l'instrument, c'est-à-dire creusé le bois, ou si la forme de la caisse de résonance cintrée au centre a été donnée par la tension de la peau qui recouvrait la caisse. Donc voilà, vous voyez tout de suite le nombre d'interrogations qui apparaissent et qui sont à soumettre effectivement à une personne qui va pouvoir faire une copie pour tester son acoustique.
Parce que René Cosset, la question qui se pose concerne aussi le geste et la pratique musicale derrière la matérialité de l'instrument.
Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Mais en fait, on s'est intéressé principalement à l'instrument, à caractériser l'instrument. Après, comment on a joué, ça, ce sont d'autres questions. Et là, c'est vraiment très difficile d'y répondre. On a eu la chance de rencontrer par l'intermédiaire de Jean-Loïc Le Carrou, qui est un acousticien qui travaille à l'Institut Jean-Laurent de Lambert à Sorbonne Université. On a eu la chance de rencontrer un musicien du Gabon qui jouait des harpes un peu voisines de celles qui avaient été reconstituées et qui a accepté de venir nous rencontrer et d'essayer de jouer ces instruments.
Quand on la réglait, et il fallait y mettre de la force.
Yannick Essonoendong, harpiste gabonais. Oui.
C'est pour ça qu'on a besoin de cette attache-là et cette position pour bien la tenir dans les bras. Donc je pense qu'elle était vraiment très tirée.
Alors il nous a appris effectivement beaucoup de choses, en particulier sur comment fixer les cordes. En fait, il y a des chevilles, mais elles ne bougent pas, ces chevilles, elles sont fixes. Donc comment on accorde, par exemple. Donc il y a toute une technique, on prend la corde, on la fait passer autour de la cheville, on l'attend. Enfin, c'est toute une technique qui n'est pas évidente à apprendre. Hein. Et également, il nous a apporté plein d'autres idées là-dessus, en fait.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'instrument en tant que tel et en dire quelques mots sur la morphologie, l'organologie de l'instrument ?
C'est comme tout instrument, en fait, à cordes. Si vous prenez une guitare, bon, vous avez les cordes, mais vous avez aussi une caisse de résonance et vous avez au milieu de la table supérieure, en fait, vous avez un trou. Et ce trou joue un rôle très très important pour le violon, le violoncelle, la guitare et plein d'autres instruments. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toute une série de petits trous, en fait. Et on se posait la question, on ne fait pas des petits trous comme ça n'importe où. Et ça nous a posé beaucoup de mal à essayer d'y répondre. En fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ces 6-8 trous, je crois, hein, en fait, on rajoutait un élément important pour ces instruments. C'est ce qu'on appelle le couplage entre air, structure, le couplage entre la cavité d'air et la résonance de ce qu'on appelle nous le cordier, cette barre sur laquelle étaient fixées les cordes. Et ce couplage permet à amplifier des sons dans les basses fréquences, en fait, où généralement il y a un problème. On appelle ce problème basse réflexe pour les haut-parleurs, c'est bien connu pour les haut-parleurs, c'est bien connu pour les instruments, le violon. Et là, on s'est aperçu que bah, ils connaissaient cet effet et ça veut dire que quand même il y avait une expertise pour faire ces trous-là. C'était vraiment assez remarquable, en fait.
Ce qui est remarquable aussi dans cet instrument, parce que il mesure 1 mètre de long pour 8 cm de large, c'est qu'il est extrêmement léger. Et à la fois, il faut trouver un bois qui soit léger pour le musicien, mais qui soit résistant à la tension des cordes. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Un autre aspect qui m'intriguait beaucoup, c'est le cordier dont René a parlé, parce qu'il pointe directement, c'est-à-dire à l'intérieur de la caisse de résonance, à la jonction avec le manche. Donc, en plus, ce cordier, il n'est pas placé sous la table d'harmonie en cuir, mais il est placé au-dessus, ce qui pour moi me paraissait être un peu une aberration acoustique, hein, mais bon, c'est bien pour ça que j'ai fait appel à René. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'un cordier y rentre dans une caisse de résonance, puisque c'est lui qui va assurer le contact entre la table, le cuir et la tension des cordes avec le manche. Et donc, quand il est en dessous du cuir, le contact il est plus évident. Mais là, il est placé au-dessus. Et en plus, ça pointe à l'intérieur du manche. Donc, je me disais aussi, ça doit créer une vibration quand on joue qui doit perturber le musicien. Et ça, c'est aussi un des éléments qu'on voulait vérifier avec la copie.
Il y avait également un autre élément, ce cordier donc qui était fixé sur le manche. À l'autre extrémité, il y avait une corde qui permettait plus ou moins de le mettre en contact avec la peau. Et ça, c'est évidemment, on ne pouvait pas y répondre exactement, on ne pouvait pas savoir comment il était tendu en fait. Et concernant le manche, on s'est aperçu que pour certaines notes, en fait, le manche vibrait. Et ce manche était placé près de l'oreille, en fait. Et donc, certainement, ça devait être un élément important aussi pour contrôler le son, en fait. Pour ce son qui n'était pas très puissant, mais quand même, le musicien devait le contrôler, en fait.
Alors, l'énorme interrogation sur ces harpes, ce sont les cordes. Hein, puisque, évidemment, elles ne se sont pas conservées. On a un petit exemplaire sur un luth trouvé en Égypte, un fragment qui est au musée du Caire, mais on n'a pas d'autres éléments sur d'autres instruments à cordes, et pas sur celui-ci précisément, ce qui, bien sûr, pose aussi un autre problème. On peut juste dire que certainement, c'était fait dans du boyau d'animal torsadé et différentes épaisseurs aussi devaient être employées pour les quatre cordes qu'on avait. Donc là, on rentre totalement dans le domaine de l'expérimentation, mais on fabrique toujours aujourd'hui des cordes en boyau, pour la musique baroque en particulier. Oui. Il y a une clientèle pour ça, donc c'est possible d'en acheter, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de monter ces cordes sur l'objet, et évidemment, on essaye d'en sortir des notes. La luthière l'a fait, Yannick et Sono Endong l'a fait, mais après, ce qu'on va jouer dessus, c'est très personnel, et surtout en plus il n'y a que 4 cordes, donc même Yannick et Sono Endong ont eu l'habitude de jouer sur des harpes du Gabon qui ont quand même 5 cordes à minima, donc il y a une adaptation. Après ça peut redevenir un instrument joué pour le plaisir en fait.
Merci à Mylène Pardoen, Brian Katz, Julien Ferrando, Sybille Émérite, Olivier Varusfel et René Cosset. Mixage, Pierre Henry. Attaché d'émission, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Science en son, archéologie, les acoustiques du passé. Un documentaire de Céline Lozen et Guillaume Baldi. Maganga ma kondiao, 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 maganga